À quoi tu penses?
C'est ça.
Des sons de fréquence supérieure à ceux du spectre audible.
C'est monstrueux.
Les étoiles en plus.
Ah ouais?
Séquence midi, l'info locale à la sauce Pulsar, midi 30-13h sur le 95.9.
Bonjour, bienvenue pour la dernière de la saison de votre magazine quotidien composé de découvertes musicales, de vos sorties à Poitiers et ses environs et surtout de rencontres autour de l'actualité. Certains recouvrent leur maison de vaisselle cassée, d'autres vont construire de toutes pièces un univers architectural et ornemental. Ces habitants paysagistes entreprennent de faire de leur environnement quotidien, maison ou jardin, une création personnelle. La région a décidé de les recenser, on en parle en seconde partie d'émission. Mais d'abord, on évoque ensemble une avancée en matière de traitement des déchets sur le territoire en compagnie de Bastien Bernella, qui est vice-président de Grand Poitiers en charge du développement économique, de l'économie sociale et solidaire et de l'économie circulaire. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui suite à la signature d'une convention sur le réemploi des déchets avec plusieurs structures de l'économie sociale et solidaire. Alors d'abord, quel est l'objectif de cette convention, objectif principal on va dire, et les raisons qui ont motivé Grand Poitiers à s'engager dans cette démarche?
Oui, alors ce projet, il s'inscrit dans deux grandes compétences de Grand Poitiers. La première, c'est le développement économique et l'économie sociale et solidaire. Donc on a à cœur de pouvoir développer de l'activité économique sur ce territoire avec les structures de l'ESS. Et puis par ailleurs, la compétence déchets, économie circulaire. Donc on a la responsabilité du traitement et de la valorisation des déchets. Et puis avant ça, prévenir la production de déchets. Et donc on a travaillé avec des structures du territoire sur le développement de filières de réemploi de différents matériaux. Donc ces signatures de convention, elles s'inscrivent dans un marché public à la base que Grand Poitiers a avec deux acteurs. Un gros acteur du déchet qui est Veolia et puis une structure d'insertion par l'activité économique, donc Croix-Rouge Insertion Valoris, qui ont pour mission, donc dans le cadre d'un marché public, d'exploiter la recyclerie de Grand Poitiers. Donc vous toutes et tous qui nous écoutez, quand vous allez en déchetterie, vous avez la possibilité de déposer des objets, des matières dans ce qu'on appelle des caissons de réemploi. Donc plutôt que de mettre dans les bennes, où là, une fois qu'un objet, une matière est dans la benne, elle a le statut de déchets avec tout ce qui va avec d'un point de vue réglementaire, tarification, etc. Vous pouvez déposer des choses dans des caissons de réemploi et c'est ces caissons-là qui vont alimenter la recyclerie exploitée par Veolia Croix-Rouge Insertion. Donc on va avoir différents types d'objets, ça peut être du petit mobilier, ça peut être des vélos, des jeux et jouets. Donc c'est ça qu'on va ensuite redistribuer dans le cadre de conventions à différents acteurs du territoire pour structurer des filières.
Ça, c'est qu'en fait, c'est en plusieurs étapes. Et il y a aussi eu la consolidation de la recyclerie. Quel est son rôle vraiment dans le processus?
Donc, cette recyclerie qui est située à Saint-Éloi, donc propriété Grand Poitiers et exploitée par Veolia et Croix-Rouge Insertion dans le cadre du marché, elle accueille les matières qui sont dans les caissons de réemploi. Donc, ça représente plus de 300 tonnes par an à peu près. Et ça a vocation à augmenter dans le temps, puisque l'objectif, c'est de faire la promotion, encore une fois, de ce réemploi pour éviter que les matières ne deviennent déchets. Et donc, ensuite, elle va trier les objets en fonction de leur état, du niveau de réparabilité des objets. Et donc il y a des objets qui vont être maintenus dans leur état initial, c'est-à-dire qu'un vélo va pouvoir rester un vélo, un jouet, et puis d'autres qui vont être démantelés, c'est-à-dire qu'on va renvoyer la matière dans chacune des filières. Donc démanteler par exemple un jouet avec la matière plastique qui peut être valorisée en tant que plastique, le tissu en tissu, etc. Et donc l'objectif, c'est d'augmenter la part réemploi en travaillant avec un réseau de partenaires. Et donc dans le cadre de ce marché recyclerie, Croix-Rouge Insertion notamment, donc en tant que structure d'insertion, a pour mission de développer des partenariats avec d'autres structures du territoire, d'où cette douzaine de conventions qu'on a signées. Donc peut-être pour illustrer un petit peu avec quelques exemples, on a donc Papiol, une entreprise à but d'emploi dans le cadre de Territoire Zéro Chômeur, qui reconditionne et revend des jouets. Donc toute la partie jeux et jouets va être fournie de la recyclerie vers Papiol. Idem sur tout ce qui va être vélo avec la structure d'insertion Recycle qui est à Beaulieu, donc structure d'insertion aussi, et qui il y a quelques temps, c'était une actualité aussi qu'on avait évoquée sur ces ondes, la mise en place de Cap sur le vélo campus qui est exploité par Recycle. Donc on avait une première flotte de vélos neufs pour les étudiants et l'objectif, c'est de densifier cette flotte avec des vélos issus du réemploi, donc qui proviennent de ces conventions et réparés par Recycle. On peut aussi citer un travail avec l'association Le Centre sur la revalorisation des aides techniques. Donc là, il y a une nouvelle réglementation à partir de cette année sur tout ce qui est donc aides techniques, c'est les fauteuils roulants, béquilles, etc. Voilà, qui peuvent être remises dans le circuit parce que souvent, les personnes en situation de handicap de façon temporaire ou voilà, font l'acquisition sur prescription médicale d'appareils qui vont ensuite passer leur vie au grenier. Et donc l'objectif, c'est de les remettre dans le circuit plutôt que d'acheter du neuf.
Oui, j'allais vous demander effectivement quels sont les types de déchets qui sont concernés et surtout comment on décide si c'est réemployable et si ça a vocation à être utilisé dans ce cadre-là.
Donc là, le point de départ sur les 300 tonnes que je citais tout à l'heure, c'est à peu près une centaine annuelle qui est réemployée, donc qui reste dans un usage par rapport à l'objet initial. On a vocation à augmenter cette partie-là. En fait, c'est du travail de main-d'œuvre pour repérer, réparer ce qui peut l'être. Donc encore une fois, Croix-Rouge Insertion valorise dans le cadre du marché gère l'accueil des matières, un premier tri, et ensuite, en fonction des différentes filières que j'ai pu citer, jeux et jouets, vélo, aide technique, on peut parler aussi de la recyclerie sportive, sauf ton sport, donc tout ce qui va être matériel sportif, est renvoyé dans le cadre de ces conventions, avec un enjeu de traçabilité, à des structures du coup spécialisées qui vont prendre le relais pour finir le reconditionnement et puis commercialiser les flux. Donc l'objectif, c'est vraiment à la fois de monter en volume sur ce qui est déposé en question de réemploi. Donc là, on est dans une logique de prévention. Je fais juste un petit aparté sur la hiérarchisation des modes de valorisation des déchets. C'est un peu la pyramide, quoi. L'objectif, et c'est souvent une phrase qu'on entend, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc là, c'est éviter de prévenir, donc de ne pas aller à la benne. Donc ça, c'est le déchet qu'on évite. Le pire du pire, c'est l'enfouissement, l'incinération pour incinérer. Alors après, on peut faire de la valorisation énergétique. C'est l'objectif des unités de valorisation énergétique qui alimente le réseau de chaleur urbain, mais le mieux pour nous, c'est le réemploi, donc c'est de développer de l'économie circulaire et donc derrière des supports d'activité pour des structures qui emploient des personnes parfois éloignées de l'emploi pour reconditionner ces déchets. Donc quand on parle de structuration de filière d'économie circulaire, on est vraiment dans ce double enjeu-là, à la fois l'évitement de déchets, le réemploi et puis la production d'activités économiques pour des acteurs de l'ESS.
Et puis oui, le réemploi, ça évite aussi de produire de nouveaux produits, donc qui polluent effectivement à chaque fois qu'on consomme ces produits. Concrètement, comment vous allez sensibiliser peut-être aussi les habitants à déposer leurs déchets dans ces bennes, et puis peut-être former aussi les personnels en déchetterie pour accompagner les habitants?
Tout à fait. Donc il y a un vrai enjeu en effet de campagne de communication pour éviter que tout un tas de matières qui pourraient être réemployées passent par la case déchets. Alors ça prend. Alors il y a un enjeu de sensibilisation, on va dire, au fil de l'eau sur le comportement d'achat et puis de jeter. Hein. On est encore, même si là on peut saluer toutes ces initiatives et ce réseau, on est encore dans une logique un peu d'économie linéaire. Enfin, si on prend l'actualité du textile, par exemple, il y a une loi là sur la fast fashion. Donc c'est les plateformes type Shein, Temu, etc. qui sont aujourd'hui plébiscitées par les Français et qui sont l'incarnation de cette économie linéaire, j'achète et je jette rapidement. Donc il faut qu'on sorte collectivement de ça. Il y a tout un travail de sensibilisation à faire auprès des consommateurs et des consommatrices. Et puis après, il y a de la consommation qui peut être plus ponctuel, il y a des événements, par exemple, à l'occasion de la rentrée universitaire, il y a tout un travail qui est fait, et ça marche vraiment très bien sur les dernières éditions, en lien avec la FEVE, sur les bric-à-brac solidaires. Donc là, on a la FEVE est signataire, parmi la douzaine de signataires des conventions. Donc là, on est sur une vision plutôt solidarité, et les consommateurs sont assez sensibles à ces éléments aussi. Le réemploi peut être aussi au service d'une logique de solidarité. Donc Croix-Rouge Insertion valorise, là, fait partie du réseau Croix-Rouge aussi. Donc typiquement, on a le réseau Croix-Rouge qui va utiliser des mobiliers, des matelas, etc. pour aider à l'équipement de personnes qu'elles accompagnent dans une logique de solidarité et mission sociale. Ça peut être des familles migrantes, voilà, etc. Ou en situation de mal logement. Et puis, sur le volet étudiant, et je pense que c'est un vecteur important de communication dans une ville étudiante comme la nôtre, l'encouragement des Poitevinais et des Poitevins à déposer du mobilier, par exemple, de la vaisselle pour des étudiants à la rentrée. On a vraiment une montée significative du volume déposé à destination des étudiants, et je pense que voilà, c'est un vecteur de communication intéressant.
Et peut-être une dernière question, c'est sur les objectifs chiffrés et puis le calendrier un peu que vous vous êtes fixé.
Oui, alors je réponds juste à la deuxième question de tout à l'heure qui fait le lien un peu avec des enjeux de calendrier. Là, on a aussi renouvelé le marché de gestion de nos déchetteries et de sensibilisation. Alors il y a les métiers de haut de quai, bas de quai, enfin, c'est-à-dire quand on accueille les personnes en déchetterie, et typiquement il y a tout un enjeu de formation, ce qu'on appelle des agents valoristes, c'est-à-dire c'est pas que de l'accueil en déchetterie pour jeter, c'est des personnels qui sont en capacité d'accompagner l'usager sur est-ce que ça peut être déposé dans le caisson de réemploi, et puis conseiller sur aussi les prochaines venues des usagers sur ce qu'ils peuvent préserver du statut de déchet. Et il y a une vraie envie des personnels de nos déchetteries actuelles, qui ont vocation à devenir des centres de valorisation demain, à accompagner cette dynamique-là. Donc ça, dans nos marchés, il y a des objectifs chiffrés de formation d'agents valoristes qui peuvent accompagner cette dynamique-là. Je disais 300 tonnes annuelles, on peut facilement demain arriver à 500, pourquoi pas 1000 à moyen terme. Il y a ce qui relève du réseau des déchetteries, mais il peut aussi y avoir de la dépose volontaire dans d'autres sites. En maillage, en proximité, les centres socioculturels, par exemple, les 10 maisons de quartier qui aujourd'hui accueillent en lien avec TZ pour certaines des jeux et jouets en direct. Donc je pense vraiment qu'on peut assez vite monter en charge et donc limiter de ce qui relève du recyclage au sens strict des matières, mais plutôt être dans une logique de réemploi.
Merci beaucoup Bastien Bernella, donc vice-président de Grand Poitiers en charge du développement économique. Merci d'être venu dans Séquence Midi.
Merci.
On continue en musique avec Joanne Radao, ce titre Géline, elle a été découverte lors du chantier des Franco l'année dernière. Charline Claveau, vous êtes vice-présidente du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine en charge de la culture et du patrimoine.
Bonjour Radio Pulsar.
Alors, vous êtes parti à la recherche des habitants paysagistes. La région Nouvelle-Aquitaine a décidé de lancer un inventaire collaboratif pour révéler un patrimoine artistique méconnu. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un habitant paysagiste?
Alors, un habitant paysagiste, il faut dire que la définition n'est pas simple. Et puis, il y a eu plusieurs appellations. Par exemple, on a parlé d'inspiré du bord des routes ou de bâtisseur de l'imaginaire. Nous, on a retenu cette appellation qui est la plus courante d'habitant paysagiste. Et ça correspond à des personnes qui sont autodidactes et qui ont transformé leur maison ou leur jardin en une œuvre d'art à part entière. Et généralement, ce sont des gens qui sont issus de milieux populaires, qui n'ont pas de formation artistique, mais qui ont cet élan créatif très important et qui aussi ont eu la volonté d'exposer au regard leur travail et leurs œuvres. Donc c'est à peu près ça, la définition des habitants paysagistes, et à la fois la définition n'est pas stable parce que par définition, il y a une grande variété d'environnements, une grande diversité en fait, des formes de ces œuvres-là.
Et alors, qu'est-ce qui vous a motivé, vous, en tant que vice-présidente en charge de la culture et du patrimoine, de lancer cet inventaire participatif ?
Alors d'abord, il se trouve que la région Nouvelle-Aquitaine est propriétaire d'un site considéré comme un site d'un habitant paysagiste, le Jardin de Gabriel. Donc l'artiste en question, c'est Gabriel Albert et c'est un site qui est situé à Nantillé et dont on a assuré la sauvegarde et la valorisation. Et par ailleurs, on a développé une expertise dans la région et notamment dans notre service inventaire du patrimoine autour de ce patrimoine-là. Par exemple, la région a été, l'a lancé en 2009, la première étude dédiée à du patrimoine créé par un habitant paysagiste, donc celui du Jardin de Gabriel. Et on a aussi le musée de la création franche à Bègles qui s'intéresse à tout ce qui est art brut, art naïf. On a également le musée Cécile Sabourdi à Vic-sur-Breuil qui est en Haute-Vienne qui s'intéresse également à l'art singulier. Vous voyez que j'utilise beaucoup de termes très différents. Et en fait, il y a une expertise qui s'est développée dans la région. En plus d'avoir, on pense, peut-être une centaine de sites qui correspondent à cette définition. Mais tous ne sont pas identifiés, ils ne sont pas répartis. Beaucoup sont en voie de disparition à moyen ou long terme. Et donc, on s'est lancé dans cet inventaire parce qu'on s'est dit qu'on ne va peut-être pas pouvoir évidemment conserver l'ensemble de ces sites, mais au moins on peut les identifier, leur offrir une reconnaissance. L'aspect participatif et collaboratif de l'inventaire, il est particulièrement important parce que en fait, ce sont des sites qui ont été qui ont suscité très peu d'intérêt de la part des institutions culturelles ou patrimoniales parce qu'ils n'appartenaient pas à l'art académique. Et donc là, on va s'appuyer sur les habitants, les visiteurs, les voisins, les gens de passage pour identifier ces sites-là.
Alors, vous parlez de reconnaissance, effectivement, des différences avec l'art académique. Pourquoi c'est important de mettre en valeur cet art plus populaire, dirons-nous ?
Alors, d'abord, il y a un intérêt artistique parce que souvent, ce sont des sites qui ont les artistes ont fait preuve d'une inventivité tout à fait étonnante. Ils ont utilisé des techniques personnelles, souvent avec des matériaux qu'ils ont récoltés dans leur environnement direct, avec peu d'influence des courants artistiques. Et donc, on a souvent évidemment des œuvres tout à fait singulières. Mais je pense que, en fait, on a déjà en tête des sites très connus qui relèvent de cette esthétique-là et de ces habitants paysagistes. Je pense par exemple au Palais idéal du facteur Cheval ou encore à la maison Picassiette. On a vu, par exemple, le Palais idéal du facteur Cheval, c'est plus de 200 000 visiteurs par an. Alors même qu'à l'époque où il était question de l'inscrire pour le protéger au titre des monuments historique, les appréciations étaient terribles. On parlait d'un lieu absolument hideux, d'une démarche artistique complètement absurde, etc. Et donc, on voit bien qu'en fait, la notion d'art, elle est très mouvante, elle est subjective, et le beau également. Et donc, en fait, c'est une richesse supplémentaire pour notre patrimoine artistique que de s'intéresser à ces démarches-là, et qui sont des démarches qui sont intéressantes aussi dans les parcours humains de ces personnes, parce que souvent, cet élan-là, créatif, il provient d'une rupture dans leur vie personnelle, ou d'une rupture affective, ou alors de rêves qui sont poursuivis, et avec cet irrépressible besoin de créer. Voilà, donc je pense que ces sites-là ont un intérêt vraiment très important.
Alors, comment ça va se passer concrètement, puisque c'est un outil participatif collaboratif, vous le disiez ?
Tout à fait. Alors, en fait, c'est une cartographie interactive qui est accessible via le site patrimoine-nouvelle-aquitaine.fr. Chacun peut accéder à la carte et puis vous remplissez un formulaire où vous pouvez géolocaliser l'environnement que vous avez identifié. Vous pouvez télécharger des photos, vous pouvez télécharger aussi des enregistrements vocaux. Et écrire sur le site. Et c'est Yanouri qui est notre chargé d'inventaire au sein du service, qui est l'interlocuteur principal. Il y a son adresse email et donc pour toute question, on peut évidemment lui écrire et l'appeler. Et donc tout un chacun, de son téléphone portable ou de son ordinateur, peut remplir des données sur un site qu'il pourra géolocaliser.
Certains de ces sites ont déjà fait l'objet d'un petit film. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples d'habitants paysagistes et de leur création surtout ?
Oui, alors on a d'ores et déjà, la carte est déjà renseignée d'à peu près plus d'une quarantaine de sites, mais voilà, on pense qu'il y en a évidemment beaucoup plus. La région a également, vous l'avez dit, réalisé des petites vidéos, c'est ce qu'on appelle les vidéoguides, pour sensibiliser à ce qu'est un habitant paysagiste, à certaines figures régionales qui sont dans la région. Je pense par exemple à Antoine Pocard, qui lui est un sculpteur sur pierre de Saint-Salvador en Corrèze. Il y a également François Michaud. François Michaud, c'est sans doute le plus, en tout cas, c'est le site le plus ancien d'habitants paysagistes qu'on ait en France. Et ça, c'est en Creuse, c'est le village Magot. François Michaud, il a vécu entre 1810 et 1890. Vous avez également, je l'ai dit, le jardin de Gabriel. Bon, j'en oublie plein d'autres, mais certains sont connus quand même en région. Et je pense que notre région en est particulièrement riche, ces sites-là.
Et au-delà de ce recensement, qui est la première étape, quel sera l'objectif ensuite ? Est-ce qu'il faudra les protéger, les valoriser touristiquement ? Vous parliez éventuellement des facteurs cheval qui attirent des visiteurs. Quelle sera la suite ?
Alors, tout dépend des sites. Et dans un premier temps, il va falloir aussi vérifier que les identifications rentrent dans le cadre, même si on a vu que la définition était quand même assez large, mais dans le cadre de cette définition d'habitant paysagiste. Ensuite, on sait qu'il sera impossible de tout préserver, tout conserver. Les sites ont des statuts différents. Parfois, ce sont évidemment des propriétés privées. L'idée, c'est déjà en fait de les répertorier et de recueillir et collecter de la donnée et ensuite de valoriser cette connaissance sur ces sites-là. Vous avez cité par exemple les vidéos, etc. Ça pourra faire aussi l'objet de publications. Et pour certains sites, effectivement, on pourra peut-être envisager une mise en valeur avec une ouverture aux visiteurs, comme c'est déjà le cas au Jardin de Gabriel, par exemple, à Nantes, où là, effectivement, on a dans la saison d'été un site qui est ouvert aux visites et on est en coopération avec la communauté de communes, avec l'office de tourisme, avec la commune de Nantes. Mais évidemment, pour cette étape-là, soit il y a une volonté associative derrière un site, soit il y a des partenaires publics qui se penche sur la question et qui trouve intéressant de mettre en tourisme, par exemple, ou d'ouvrir le site.
Oui, parce que le risque, effectivement, c'est que lorsque la personne décède, que la maison est vendue ou n'appartient plus à la famille, le risque, c'est que ça disparaisse. Est-ce qu'il y a éventuellement un accompagnement Absolument. Qui est prévu pour les familles, pour préserver ce patrimoine ?
Alors ça, pour l'instant, on va dire un accompagnement qui serait un peu un accompagnement juridique ou administratif ou même de l'information aux ayants droit. Pour l'instant, ce n'est pas prévu, mais ça peut être une piste. Après, il existe déjà des associations sur le sujet. Je pense à une association, je vais sans doute écorcher un peu le nom, mais c'est une association pour le patrimoine particulier. Mais voilà, tout dépend effectivement de ce que deviennent ces lieux. Typiquement, le jardin de Gabriel, c'est la région qui a racheté parce qu'elle avait identifié cet intérêt patrimonial. Mais il y a plein d'autres maisons qui, effectivement, ensuite, tout simplement, sont mises en vente ou mises en location. Donc, les situations sont très variées. Pour l'instant, il n'est pas prévu un accompagnement spécifique. On en est déjà à identifier ces sites et une fois que ce sera, on aura un inventaire un peu plus complet, peut-être de resserrer un peu la maille en disant bon, quels sont ceux qui sont vraiment dans l'intérêt pour lesquels il faudrait qu'on puisse assurer des possibilités de conservation.
Et juste le calendrier que vous vous êtes fixé pour cette première étape de cartographie la plus complète possible dans la région ?
Illimité. Non, c'est vrai. Parce qu'en fait, il y a des sites qui sont encore en construction avec des... il y a des habitants en Nouvelle-Aquitaine qui sont en cours d'œuvre, si je puis dire, dans leur environnement. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de limite de temps. Après, on aimerait évidemment que la communication autour de cet inventaire permette, dans l'année à venir, d'avoir le plus de contributions possibles pour essayer d'arrêter un premier périmètre. Mais la cartographie, la possibilité de compléter cette cartographie reste ouverte pour l'instant.
Merci beaucoup Charline Claveau. Alors si vous voyez pendant vos vacances des jardins somptueux sculptés, n'hésitez pas peut-être à renseigner les propriétaires pour leur dire qu'ils peuvent peut-être avoir leur place dans cette cartographie, on peut dire ça peut-être à nos auditeurs, auditrices.
Oui, ou même les passants peuvent d'eux-mêmes compléter la cartographie. Et voilà, ce sont des jardins sculptés, ça peut être des cours, ça peut être des maisons décorées. Plein de formes, tout ce qui peut-être interpelle et mérite qu'on s'arrête. Ça vaut le coup d'y regarder d'un peu plus près et de compléter la cartographie.
Merci. Je rappelle que vous êtes vice-présidente du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine en charge de la culture et du patrimoine, que vous avez donc lancé cet inventaire collaboratif pour révéler le patrimoine des habitants paysagistes. Merci beaucoup.
Merci.
Demain, dans le Café de la Presse, on fera le point sur les rendez-vous culturels de l'été, notamment les festivals ou la gratuité du musée. Ce sera avec le 7 et la Nouvelle République Centre Presse. Et tout de suite, c'est l'heure de vos idées sorties. Et l'agenda est présenté par Thomas.
Le festival Bruisme commence aujourd'hui à 18h30 à l'espace Maine des France. En entrée libre, aujourd'hui, une conférence sonore animée par Mathieu Metzger et Jocelyn Minier qui vous présente leurs réflexions sur l'apport de l'enregistrement à la musique et leur manière de penser la musique. On reste à Poitiers avec le Conservatoire Grand Poitiers qui organise au Centre Socio-Culturel de Beaulieu le spectacle Tous en rythme créé par les élèves et les enseignants en danse, musique et art plastique du Conservatoire. L'entrée est gratuite à 20h. À 20h30 à Chasseneuil-du-Poitou, vous retrouvez le concert symphonique Adiemus, organisé par la chorale de l'Université de Poitiers et le chœur de l'Auxence. Un spectacle de 160 choristes accompagné par un orchestre symphonique pour 1h30 de musique et de reprises aux sonorités africaines. C'est 15€ et 8€ pour le tarif réduit. Et enfin, pour terminer cet agenda musical, on vous propose la comédie musicale The Greatest Showman à 20h30 à Saint-Benoît à la Une. C'est réalisé par Broadway School, l'école de comédie musicale de Poitiers. C'est 14€ pour les adultes et 9€ pour les enfants.
Merci beaucoup Thomas. On te retrouve demain pour la dernière d'Espace Matin. Vous serez en public au Café des Arts entre 8h et 9h30 et tu nous as prévu une petite surprise.
Oui, j'ai prévu de faire un petit jeu de rôle dans les 3 minutes qui me sont imparties. Donc c'est déjà...
C'est déjà un challenge.
C'est pas le jeu de rôle le plus court de l'histoire, puisqu'il dure 1 minute 30, je crois. Réalisé par Fibre Tigre, dont je me suis inspiré.
Rendez-vous demain en public ou derrière votre poste de radio pour découvrir ce jeu de rôle. Donc 8h, Espace Matin, la dernière de la saison. C'était aussi la dernière pour Séquence Midi. Merci Solène pour la réalisation technique. Merci à tous les techniciens et techniciennes bénévoles qui m'accompagnent tout au long de la saison. On se retrouve bien sûr en septembre. Et merci à tous les quelques 300 invités qui sont venus à ce micro tout au long de la saison, ainsi que les chroniqueurs et chroniqueuses. Sur Pulsar, ce soir à 18h, c'est le Labo des savoir, parcours d'une tasse de café. Et oui, c'est peut-être la première chose que vous avez bu ce matin. Comment se passer de café ? Derrière cette boisson quasi universelle, il y a des molécules, des mains qui le cultivent, des recettes, des goûts que l'on apprend à aimer ou à détester. C'est donc le thème du Labo des Savoirs. 19h, c'est Poitou Pop et 20h, c'est Metal Fury. Bon après-midi, à demain.